Bonjour les amis, bienvenue sur Burger Ring. Burger Ring, le podcast le plus gras et le plus protéiné du game. Les amis, bienvenue sur ce nouvel épisode de Burger Ring. Merci encore pour votre soutien. Vous avez fait péter les scores de la BD, je ne vais pas en reparler. Ça va péter ! Péter ! Merci beaucoup les amis, allez, j'ai fait tout un laïus dessus dans le précédent podcast, donc là on va rentrer directement dans le vif du sujet, sans fioriture. Les amis, hier c'était le jour en Espagne, puisque maintenant je vis en Espagne, c'était le jour de l'hispanité, el día de la hispanidad, qui concorde avec le jour de la Vierge du Pilier, la Vierge de Saragosse je crois, la Vierge du Pilier, la Virgen del Pilar, qui est en fait la sainte patronne de la Guardia Civil, donc... C'est une fête à caractère religieux, nationaliste et profondément autoritariste, pardon. Bref, une belle tranche de franquisme. Qu'est-ce que c'est que ce gâteau? Oh, tiens, ça sent bon. Qu'est-ce que c'est? Du fascisme! C'est un gâteau fasciste. Tiens, prends une grosse part. Voilà. Et ce jour-là, quand tu vas à l'église, tu prends une grosse part de gâteau bien fasciste. Oh, c'est pas un bon jour pour les communistes. C'est pas la fête du travail. Y a pas des cégétistes là qui puent de la gueule, qui puent du cul, qui te vendent, je sais pas quoi là, des autocollants, touche pas à mon pote. C'est le jour de l'hispanité rempli de vibes, pour parler comme un fils de pute avec des anglicismes, rempli de vibes franquistes. Hein, le Franco, depuis sa tombe, envoie des ondes électromagnétique pour rendre ce jour spécialement très 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 anti-gauchiste. Alors, le jour de l'hispanité, Día de la Hispanidad, c'est un jour qui est célébré dans toutes les anciennes colonies. Enfin, c'était pas des colonies, c'était l'Espagne, la Colombie, le Mexique. Ce n'était pas des colonies, c'était l'Espagne. Jusqu'à ce qu'ils prennent leur indépendance, c'est le jour des forces armées de l'hispanité. Donc l'hispanité, qu'est-ce que c'est? C'est très simple, c'est la pratique de la langue espagnole et l'adhésion au catholicisme. Voilà, c'est ça qui circonscrit l'identité de l'hispanité. Ce qui fait de vous un hispanique, un hispanisant, c'est la conjonction entre la langue espagnole et le culte catholique, ce qui diffère un petit peu d'autres modèles, comme par exemple le modèle français, où historiquement, je ne parle pas le modèle républicain, je parle du modèle français, donc qui avait cours jusqu'en 1789, la francité s'obtenait par la pratique du français, donc de l'abandon de la langue régionale au profit, enfin en tout cas de la mise à distance de la langue régionale au profit de la langue française, qui n'est pas la langue à la base de tous les Français actuels. Et de l'adhésion au christianisme, et je ne dis pas au catholicisme, puisque des rois de France ont permis aux protestants de devenir des sujets égaux, au même titre que les catholiques, ce que n'a jamais fait l'Espagne, c'est-à-dire que l'Espagne considère qu'il n'y a qu'une seule religion, c'est le catholicisme. Si tu parles espagnol et que tu es juif, tu n'es pas un espagnol. Si tu parles espagnol et que tu es musulman, tu n'es pas un espagnol. En tout cas, tu n'es pas un hispanique, tu ne t'inscris pas dans l'hispanité, tu as des influences peut-être hispaniques, tu peux être hispanophone, mais tu ne rentres pas dans ce qu'on appelait l'hispanité, la grande hispanité, qui regroupait en fait tous les sujets de l'Empire espagnol, que ce soit les Mexicains, les Philippins ou les Guinées équatoriennes pour ce qui concerne l'Afrique, donc l'Amérique du Sud, l'Asie et l'Afrique. Tous sous le même empire dirigé par Charles Quint et puis son fils Philippe II, se devait d'être hispanophone et catholique. Voilà. Les Allemands, c'est encore autre chose. Dans les aires d'influence germanique, les peuples germaniques, estimant qu'ils sont d'ascendance divine, se transmettent l'identité par le sang. Voilà. Il y a d'autres peuples qui fonctionnent comme ça. Par exemple, les Romains estimaient que vous deveniez un Romain quand vous faisiez comme les Romains à Rome, quand vous arrêtiez d'être un barbare à partir du moment où vous viviez à la romaine, où vous parliez parfaitement le latin et où vous aviez absolument toutes les subtilités du fonctionnement social de la Rome antique. Voilà, c'est pour ça que les Latins, en tout cas on va dire les patriciens n'étaient pas uniquement que des Ligures, qui sont l'ethnie des Romains, des premiers Romains. Vous aviez des patriciens qui étaient de tout horizon, qui étaient germains, gaulois, kabyles, ibères, hein, ce que vous voulez, et qui ont réussi à devenir des patriciens parce qu'ils adoptaient les us et coutumes. Dans l'ère germanique, c'est différent. Les peuples germaniques étant persuadés qu'ils ont une ascendance divine, pour eux, si tu te mélanges avec quelqu'un, si tu fais du métissage, tu dilues ta divinité. Donc tu perds en divinité, donc c'est pour ça qu'ils font rentrer cette dimension ethnique, pour ne pas dire raciale, dans la question de l'identité. Et c'est pas les seuls à le faire. Les Japonais, par exemple, ou les Juifs ont la même considération. Pour eux, tu peux parler japonais, si tu n'es pas racialement japonais, tu ne seras jamais un Japonais. Et c'est pareil pour les Israéliens, la judéité se transmettant par la mère. Alors je crois qu'on peut se convertir au judaïsme, mais les véritables juifs ne te considéreront jamais comme un authentique juif si tu n'as pas reçu ton identité juive par ta mère. Voilà. Donc c'est un petit peu là. Et d'ailleurs c'est assez drôle parce que c'est la similarité qu'il y a entre la conception de l'identité germanique et la conception de l'identité juive. Et c'est ce qui fait, je pense, qu'à un moment ça a pété. Voilà. Ça a pété! Voilà. Et donc, vous avez la troisième alternative, enfin la troisième, vous avez une alternative qui est, que moi j'aime bien, qui permet à un noir ou à un indien amazonien de faire partie de la grande famille de l'hispanité. La citoyenneté espagnole, c'est autre chose, c'est quelque chose qui est moderne, c'est circonscrit à un pays territorialement, voilà, mais avant, on était des sujets de l'Empire espagnol, et donc vous étiez un Guinée équatorien, vous étiez pardon un Philippin, vous étiez un Indien, c'était pareil, vous faisiez partie de la grande famille de l'Hispanité à condition d'être catholique et de parler espagnol. Voilà. Bon, donc c'est ça qu'on. Excusez-moi, j'ai fait un long développement de 5 minutes là, mais c'est les petites différences qu'il y a entre les notions d'identité et donc en Espagne, c'est le jour où on célèbre l'identité où on célèbre l'hispanité. Voilà, l'identité hispanique. Bon, et ça concerne donc ce n'est pas circonscrit racialement, c'est ça que j'aime bien. Voilà. C'est que vous pouvez avoir concrètement des latino-américains, des noirs ou des asiatiques à la messe qui sont quand même considérés comme faisant partie de l'hispanité. Voilà. C'est quelque chose de très universel. En plus, le catholicisme en lui-même, vous savez que catholicos est un mot d'origine grecque qui veut dire universel. Donc c'est une religion qui s'adresse à l'universel, qui s'adresse à tout le monde. Voilà. Et l'hispanité s'adresse aux catholiques et aux hispanophones. Donc voilà. Bref, donc je suis, moi j'appartiens à la francité, à la francophonie, je n'appartiens pas par exemple à l'identité républicaine, voilà. Bon, ça c'est encore autre chose. Et on peut appartenir aux deux. Je coche les cases pour être français, et pour être espagnol, je parle historiquement. Historiquement, pour être français, il fallait pratiquer le français et être chrétien, et ne pas être déloyal envers le roi de France. Je me bats pour que le roi de France revienne sur son trône, donc il n'y a pas de problème. Et ça ne m'empêche pas, à côté de ça, d'avoir mon identité. Donc mes deux identités sont conciliables, voilà. Il n'y a pas de conflit entre mes deux identités, contrairement à d'autres personnes. Bref. Et donc, si vous voulez, ce jour-là est génial, parce que c'est vraiment le retour à l'ancienne. C'est-à-dire, tu vois des trucs qui avaient disparu. Concrètement, tu vois des trucs qui sont impossibles dans un pays républicain, dans un pays d'essence maçonnique, dans un pays d'essence avec une construction maçonnique dans ses lois, dans ses structures. Alors, ce n'est pas du tout le cas de la France, c'est très récent. Ça fait 3 siècles que la construction maçonnique a pris le pas sur la construction séculaire de la France, qui s'articulait autour du catholicisme et des valeurs catholiques. Et on a développé une culture française autour de ces valeurs catholiques. Et donc ça fait effectivement ça fait depuis la depuis pardon la révolution de 1789 ça fait plus de 2 siècles que on a presque 250 ans que on a changé de paradigme, qu'on a changé de conception de notre identité. Et donc c'est vrai que il y a des choses qui peuvent vous paraître très exotiques ou qui peuvent vous paraître très étranges, très étrangères même. Il y en a qui m'ont, enfin quand j'ai partagé les images, il y en a qui m'ont dit « Oh putain, vraiment, l'Espagne et tout ». Mais les gars, la France c'était comme ça. La France avant la République était un pays qui était marqué par la présence du patriotisme saint et de la prédominance de notre Église catholique, de notre chère Église catholique dans l'espace public. C'était quelque chose qui était normal. Enfin, je veux dire, les curés participaient à la vie de tous les jours via les baptêmes, via les activités qu'on faisait, via même des fois l'encadrement du sport. Mon père, le communiste, m'a quand même raconté que le rugby à Figeac était notamment encadré par un un curé qui venait bénir le ballon. Enfin, il y avait un truc avant les matchs, tout ça. Donc, c'était quelque chose qui était omniprésent. Et pourtant, on était dans les années 60. Et ça fait longtemps que la France avait séparé l'Église de l'État. Mais vous aviez encore des... Alors, le travail a été très, très bien fait. C'est pour ça que des fois, ça me fait mal au cœur quand je vois des franco-français qui me disent « Oh là là, putain, l'Espagne, pour ça, c'est génial, ils l'ont gardé. » Mais les amis, la France, c'était exactement pareil, à sa façon. Vous savez, dans vos régions, enfin, il existe énormément de documentaires photographiques qui vous montrent la prédominance de l'Église catholique dans nos sociétés avant le ratiboisage culturel et le travail franc-maçon de destruction de notre identité. Vous avez des témoignages photographiques de la prédominance de la religion catholique dans l'espace public. Les Bretons, enfin, vous avez un nombre considérable de photos de procession en Bretagne, les pêcheurs qui allaient remercier la Sainte Vierge à Paimpol, à Saint-Malo, pour les baleiniers qui rentraient et qui remerciaient Dieu de d'avoir survécu à la vie extrêmement violente qu'il menait. Pareil pour les mineurs de fond dans le nord de la France qui avaient leurs églises avec leurs vierges dédiées, qui sont des très jolies églises d'ailleurs, certaines fois en fer forgé. Ça, c'est très, 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 c'est très, très, très burné. C'est des églises qui sont fabriquées avec des vieux matériaux récupérés d'exploitation minière. Donc, je trouve ça magnifique. Et ils allaient prier Dieu pour ne pas être ensevelis par un coup de grisou. Donc, si vous voulez, ce à quoi j'ai assisté hier en Espagne, c'était la normalité en France jusqu'à ce qu'il y ait la révolution des Lumières. Cette révolution n'a jamais eu lieu en Espagne. Alors, ça ne veut pas dire que l'Espagne n'est pas en très mauvais état. Mais si vous voulez, il y a des choses auxquelles elle a été moins, comment vous dire, moins exposée. Et du coup, elle souffre moins de ces choses-là. Voilà. Pour être concret, si vous voulez, on ne fait pas autant la guerre. C'est-à-dire que l'Espagne est remplie. Par exemple, les villes espagnoles, notamment Barcelone et Madrid, sont des villes où le wokisme est extrêmement présent. Il est extrêmement violent. Mais le reste du pays, par exemple, dans la majorité, dans la très 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 grande majorité des villages espagnols, vous avez vraiment une résistance à ça et même de l'activisme contre ça. Mais c'est pareil en France en fait. C'est un peu plus flou en France parce qu'en fait, comme maintenant vous avez des babos de merde qui viennent s'installer dans les villages, vous avez un peu moins ça parce qu'ils amènent leur dégénérescence avec eux, ils veulent plus entendre les cloches, hein, mais qu'est-ce que c'est que cette procession? Donc c'est quand même un peu moins marqué, le terrain religieux et identitaire a été un peu plus perdu dans les campagnes françaises malheureusement. Alors ça dépend des endroits, parce qu'au Pays Basque, dans les Pyrénées, dans certains coins que je connais pas, en Bretagne, en Normandie ou en Savoie, bon, mais c'est toujours la old schoolitude qui fait la loi. C'est pas un PD de la capitale qui va nous expliquer est-ce qu'il faut enlever les cloches autour du cou des vaches qui font le lait qui sert à faire le reblochon, le Beaujus et le Beaufort en haute montagne là du côté de Saint-Martin-d'Hères, de Saint-Jean-de-Maurienne, de tous ces bleds là, les alentours de Chambéry, tout ça. C'est encore dans les petits papelins, c'est encore très très, moi j'ai assisté de mes yeux, c'est encore très très, c'est pas les Parisiens qui font la loi. Voilà. Donc si vous voulez, là hier c'était quand même le déluge à l'ancienitude. Donc il y avait la Guardia Civile, non, il y avait 5 Guardias Civiles, il y avait les curés qui sont des curés qui ont quitté la dictature nicaraguayenne, qui est une dictature communiste. Donc ils sont réfugiés politiques en Espagne en tant que curés, puisque les curés sont massacrés. Alors j'ai appris récemment, ça c'est pour les droitards qui soutiennent la Palestine, j'ai appris que pour tuer les curés, comme c'est mal vu par la population, parce que le christianisme est très ancré au Nicaragua, les communistes nicaraguayens utilisent des mercenaires palestiniens ils utilisent des terroristes du Hamas, en fait, des sicaires du Hamas, pour venir tuer et persécuter les instances religieuses catholiques au Nicaragua. Voilà. Ça, c'est pour le front de la foi. Ça, c'est pour le front de la foi. Ça ne veut pas dire qu'il faut soutenir les autres qui bombardent nos frères chrétiens au Liban. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il faut être derrière Israël aveuglément. Israël, en ce moment, est en train de faire s'écrouler des immeubles sur des enfants libanais chrétiens, si vous voulez. Donc bon, il faut un peu se réveiller. Ni kippa, ni turban. Et donc, si vous voulez, ni kippa ni turban, en tout cas en terre chrétienne. Voilà. Après, que les juifs fassent la loi chez eux en Judée et que les arabes fassent la loi chez eux en Babouchi, et le monde ira très très bien. Bon, sauf qu'ils veulent pas y vivre en Babouchi, donc il y a beaucoup de problèmes qui partent de là. Mais ça, c'est un autre débat, c'est une autre histoire. Donc je vous disais, des curés qui ont fait un prêche très 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 anticommuniste assumé, c'était quand même assez génial. Méfiez-vous de l'extrême gauche, des structurantes qui veulent vous couper de vos racines et tout, mais putain, c'était parfait, c'était parfait. C'était le Moyen-Âge, si tu veux. Et puis il y a une espèce d'énergie parce qu'il y a les drapeaux nationaux, il y avait le drapeau national, il y avait le drapeau régional, qui est un drapeau de la Reconquista, le drapeau de la région dans laquelle je vis, est un drapeau qui est l'héritage de l'écusson que portaient les seigneurs castillans sur leur bouclier pendant la Reconquista. Voilà, ça c'est pour la laïcité, et puis pour l'inclusion. Et ensuite, vous aviez la Guardia Civile. Bon, la Guardia Civile, c'est quand même la police de Franco, quelque part, on va le dire quand même. Hein, voilà. Vous savez que la Guardia Civile paye des amendes à l'Europe chaque année parce qu'ils ne veulent pas s'habiller en bleu. L'Europe force les forces de police à s'habiller en bleu, c'est une règle. Et en fait, l'Espagne, chaque année, paye une amende pour que la Guardia Civile puisse rester en vert, comme c'était la tradition, et je trouve ça très très stylé de résister comme ça à cette espèce d'uniformisation. Donc c'est très très bien, il y a quand même ce truc-là. Si vous voulez, il y a encore des institutions qu'a laissé Franco qui résistent à l'Europe. Le problème qu'on a en France, c'est que comme tout a été, si vous voulez, comme tout a été infiltré par la franc-maçonnerie, tout est détruit de l'intérieur. Vous avez plus de structures qui tiennent la route. Alors il y a quelques, dans l'armée française, il y a quelques bastions qui reste le précaré de mecs qui sont, mais ce sont souvent quand même des gens très pro-républicains. Ça, c'est un truc que j'ai capté avec beaucoup de militaires. C'est que même si c'est des patriotes, ils sont très pro-républicains. Ils sont pas forcément royalistes. Vous en avez, mais c'est pas, et puis il y en a certains qui sont même macronistes, hein. Quand Macron veut aller faire la guerre aux Russes, quand Macron veut aller faire la guerre à un tel, eux, ils y vont, hein. Donc, il y a un peu ce truc-là. Enfin, bref. Et ce que je voulais vous dire, c'est pas tout ça, hein, mais il y a quand même un petit peu ce truc-là. Et c'est pareil dans la police. La police, bon, quand Macron lui dit tu vas tirer au flashball dans la gueule des gilets jaunes, elle le fait. Voilà. Ça n'empêche pas qu'au sein de la police, il y a des types très courageux qui font en fait de la résistance silencieuse, et ils ont beaucoup beaucoup de mérite, et je les salue et je vous dis bravo. Je sais que c'est pas facile d'aller contre ces hiérarchies. Vous pouvez vous mettre dans des problèmes. Je sais que ça met un frein à vos carrières, mais bravo, parce que au moins vous n'êtes pas passif et vous n'êtes pas des collabos comme peuvent l'être certains autres policiers. C'est pas parce qu'on a un uniforme qu'on n'est pas un enculé. Il y a énormément de policiers qui sont dans la collaboration active avec la République dans la destruction de la France et dans la destruction des Français. C'est quelque chose qu'il faut dire, mais ça ne veut pas dire que tous les policiers sont comme ça. Moi, je soutiens évidemment toutes les forces de l'ordre qui se responsabilisent et qui font la différence entre un père de famille à qui il pourrait foutre une amende et qui ne la mette pas au final, et un refus d'obtempérer et la balle qui va avec. Voilà. Donc, si vous voulez, il faut être à la fois juste et mesuré. On peut pas envoyer se faire enculer tous les policiers, mais on peut pas leur donner non plus l'absolution comme ça, alors qu'il y en a une partie quand même non négligeable d'entre eux qui protège l'État qui est en train d'assassiner la France. Donc il faut aussi le dire. Donc si vous voulez, le problème de la France, c'est que comme il y a eu un triomphe de la Révolution française, donc en fait de la loge maçonnique, vous avez eu beaucoup d'institutions qui ont été pénétrées par les idéologies de la loge maçonnique et qui ont du coup qui ne font plus office de résistance, si vous voulez, culturelle aux assauts de la modernité, du progressisme. Alors qu'en Espagne, comme il y a eu une dictature fasciste qui s'est achevée très récemment, c'est-à-dire en 1975, vous avez quand même des institutions qui ont été très très consolidées et très très solidifiées par Franco. Il faut savoir que Franco avait une haine extrêmement profonde de la franc-maçonnerie. Il les traquait, il les faisait emprisonner et fusiller en fonction du niveau de crime franc-maçon qu'ils avaient commis. Par exemple, certains francs-maçons français, s'ils avaient été attrapés sous Franco, ils auraient été fusillés. Il y en a beaucoup qui pensent ne pas faire grand mal et qui en fait font beaucoup de mal, et ils auraient été fusillés pour la moitié de ce qu'ils pensent avoir fait. Bref. Donc si vous voulez, le pays a encore quelques petites traces comme ça. Je vous dis pas que c'est l'Eldorado, hein. Je suis pas en train de vous dire oui, l'Espagne c'est mieux, c'est pas du tout ça. Je vous explique les mécanismes historiques qui sont un petit peu différents. C'est, ne vous inquiétez pas, la France aussi est l'Espagne aussi est le petit chien de l'Amérique, l'Espagne aussi est le petit chien de l'Europe, l'Espagne aussi est complètement dominée par le mondialisme. Ne vous inquiétez pas, je suis pas en train de vous dire c'est mieux, c'est pas ça. C'est que de manière organique, dans le tissu organique de la société, il y a eu un peu moins de travail de l'État pour détruire, enfin, ou de la modernité ou des élites mondialistes, pour détruire l'identité espagnole. Le travail est un peu moins fait, d'accord ? Ça ne veut pas dire que dans 20 ans, l'Espagne ne sera pas dans l'État où est la France actuellement. Vous comprenez ce que je veux dire ? Je suis pas en train de vous dire ils sont plus forts, ils ont mieux compris, c'est pas ça. C'est qu'en fait, ils n'ont pas eu le même niveau d'agressivité envers leur identité et envers leur base séculaire. C'est-à-dire que comme il n'y a pas eu la laïcité, comme il n'y a pas eu le triomphe de mai 68 politiquement, il y a eu une espèce de mai 68 espagnol qui s'est fait dans les années 80, mais il n'a concerné que certains milieux, et les grandes institutions, l'État profond espagnol, continuent à être quand même la propriété des héritiers de Franco, si vous voulez. Voilà. C'est pour ça que le gouvernement espagnol n'a pas demandé pardon pour la colonisation du Mexique, qui n'en est pas une d'ailleurs, c'est pas une colonisation, c'est la conquête d'un territoire pour en faire le territoire espagnol. Donc c'est une guerre de conquête, mais c'est pas une colonisation, ce n'est pas une colonie qui est différenciée du pays colonisateur, parce que par exemple en France vous aviez une les colonies anglaises ou françaises, vous aviez des sous-citoyens et des citoyens. Non, en Espagne, quand les Espagnols ont conquis le Mexique, le Mexicain, d'accord, était l'autochtone, parce que c'était pas encore des Mexicains à ce moment-là, les Mexicains sont des métis, le Mexica ou l'Aztèque était un sujet à partir du moment où il était... converti au catholicisme, était un sujet de l'Empire espagnol au même titre qu'un Espagnol d'Espagne. Voilà. Ce qui est la différence avec le système colonial, où vous avez des indigènes qui ont un statut différent. D'accord ? Bon, ça c'est pour la petite nuance. Et donc, si vous voulez, l'Espagne a moins souffert de ce travail, parce qu'il faut savoir que la France était la fille aînée de l'Église. Elle a longtemps été la championne de la chrétienté en Europe, au coude à coude avec l'Italie, l'Espagne et par exemple l'Allemagne à une certaine époque. Et puis après, ça dépend beaucoup des époques. Mais disons que la France est la fille aînée de l'Église, elle a toujours été la bonne élève du catholicisme et elle a toujours été exemplaire. C'est là où il y a les plus belles cathédrales, c'est là où vous aviez les rois qui étaient considérés comme étant les plus chrétiens. Alors pareil, au coude à coude avec les rois catholiques qui ont reçu le titre de roi catholique par le pape à partir de la Reconquista, mais ce qui est normal en fait, hein, parce que c'est eux qui faisaient le plus le taf. Et puis Saint Louis qui est je sais pas si vous vous rendez compte, la France a donné un roi qui est devenu un saint en fait. Donc si vous voulez, le travail de la franc-maçonnerie sur la France a été extrêmement violent, et c'est pour ça qu'aujourd'hui vous avez une distinction qui se fait entre le quotidien en France et le quotidien en Espagne. Voilà. On n'est pas autant dans la merde en Espagne qu'en France, ça je vous le dis. On n'est pas autant dans la merde, parce que le travail a été moins fait. Voilà. Donc, si vous voulez, j'ai assisté à cette messe, bon, c'était génial. Donc, prêche anticommuniste, hein, les gardiens civils qui ont déboulé en uniforme, ils ont fait monter le petit enfant avec la raie sur le côté, qui a lu un petit passage des évangiles, mais c'était génial. C'était vraiment le franquisme. Mais là, si vous voulez, vous amenez un mec de gauche parisien de 2024, hein, il suffoque. Hein, il comprend pas. Le mec pense qu'il a été téléporté dans l'Europe pré-Seconde Guerre mondiale, en fait. De tellement que c'est assumé, de tellement que c'est décomplexé. Enfin, si tu veux, là, s'il y a un évêque qui rentre et qui fait « à la croisade, on part à la croisade !»« Venez, les fidèles, à la croisade !» Mais les gens, ils vont, si tu veux. C'est ça qu'il y a plein, ils comprennent pas ce truc. C'est qu'en fait, quand l'église est blindée, que dans l'église, t'as des jeunes, que t'as des flics en uniforme qui ont des flingues, tu vois, qu'il y a des curés anticommunistes, il se passe un truc, tu vois. Il se passe un truc, tu vois. Là, on sent qu'on peut faire quelque chose. Si on sort dans la rue pour attraper un maire corrompu, on le déchiquette. Tu vois, il y a ce petit côté-là. Il y a ce petit côté, tiens, nous représentons quelque chose. Tiens, nous sommes une puissance. Tiens, nous sommes un groupe lié par des valeurs similaires. Et je vous dis, cette sensation, le jour où le français va la redécouvrir, redevenir un paroissien, en fait. Oui, je suis un catalan, je suis un breton, je suis un normand, je suis un occitan, je suis un savoyard, je suis un berrichon, je suis un bourguignon, je suis un flamand, je suis un... ce que vous voulez, d'accord ? Ok ? Oui, je suis ça, mais je suis un catholique et je suis un sujet du royaume de France, tu vois. Et quand t'es avec d'autres mecs testo, parce que là, à la messe, il y avait des agriculteurs, les mecs, ils ont des mains énormes, ça conduit des tracteurs, si tu veux. Ils ont pas le temps de se faire expliquer le changement de sexe, en fait. Il y a ça aussi, si tu veux. C'est qu'en fait, le problème aussi, c'est que dans un pays où il n'y a plus que du service et où t'as plus que 7% de paysans, en fait, c'est normal que tout devienne un petit peu plus pédé parce que les gens sont moins fatigués. Avant, les gens étaient fatigués par le travail. Si vous voulez, le wokisme s'installe parce que les gens s'ennuient. Honnêtement, c'est ça, hein. Il y a vraiment un côté « je m'ennuie, donc je deviens complètement décadent ». Quand les gens n'avaient pas le temps de s'ennuyer parce qu'il y avait du travail, parce qu'il y avait des choses à faire, il y a des métiers où on n'a pas le temps d'être de gauche. On n'a pas le temps, enfin, je parle de la nouvelle gauche, hein, parce qu'il y a des métiers difficiles où les gens devenaient de gauche parce qu'ils étaient mineurs de fond, ils travaillaient 70 heures par semaine. Au bout d'un moment, ils ont fait grève, on ne peut pas leur en vouloir, tu vois. Je veux dire, bon, il faut être aussi, voilà, il ne faut pas non plus être complètement con. Y a des combats de la gauche qui ont été légitimes et qui étaient morales et qui ont été soutenus par l'Église, d'ailleurs. Ils ont été soutenus par l'Église. Ça, faut le savoir. Vous aviez des grèves, alors pas les anarchistes, hein, ni Dieu ni maître, mais vous aviez des grèves de gauche qui étaient soutenues par l'Église parce que c'était un combat juste. D'accord ? Et c'était pas être systématiquement contre le patron. Vous aviez des patrons qui étaient aimés de leurs mineurs parce qu'il y avait une politique qui était une autre stratégie. Par exemple, vous aviez des patrons de mines, on n'en parle jamais de ça, mais vous aviez des patrons de mines qui se disaient « Bon, si j'améliore la condition de mes ouvriers, ils vont être en meilleure santé, je vais avoir un meilleur rendement, tout le monde est content. » Et à côté de ça, vous aviez des compagnies minières où il fallait essorer les ouvriers, on pouvait les laisser crever au fond de la mine. Et c'est normal qu'au bout d'un moment, il y ait un retour de flamme, si vous voulez. Voilà. Il ne faut pas être bêtement anti-combat de la véritable gauche sociale par réflexe. Après, il ne faut pas vous laisser raconter par les gens de gauche que les premiers trucs sociaux ont été inventés par la gauche. Le Moyen-Âge est extrêmement social. Le Moyen-Âge, vous avez les premiers hospitaux, hein, on en disait comme ça au Moyen-Âge, un hôpital pour l'hospitalité, c'est l'Église qui les a créés. Quand vous aviez un enfant handicapé, vous le confiez à l'Église. Quand vous aviez un vieillard qui était à bout de souffle, vous le mettiez au monastère. Et il allait ramasser des légumes et il participait à la vie du cloître. Vous comprenez le truc, c'est-à-dire que la gauche n'a pas inventé le social, ça c'est un mensonge. Donc quand les gauchistes vous disent « Eh ben, heureusement qu'on était là parce qu'il n'y avait pas de social avant », non. Vous avez fait une révolution industrielle contre le roi pour installer la modernité, et la modernité vous a explosé à la gueule, vous les gauchistes. Et ensuite, effectivement, vous vous êtes rendu compte que c'était invivable et vous avez fait des grèves. Mais vous auriez pas fait de rupture avec la tradition, vous auriez pas eu cette société de prédation. C'est-à-dire qu'en fait, la gauche a voulu tuer Dieu et l'Ancien Régime. Eh ben, elle a eu ce qui n'est pas Dieu et ce qui n'est pas l'Ancien Régime, c'est-à-dire le capitalisme de prédation et les patrons qui sont des bourgeois et plus des nobles. Voilà. Donc, à fait, ben, effectivement, après, tu creuses sous terre, bon, ben, t'as une bougie sur le casque, il y a un coup de grisou, tu exploses. Voilà. Mais le roi, il t'a jamais demandé de faire 70 heures par semaine. Voilà. Donc, vous comprenez ce que je veux dire? Il faut pas se faire avoir sur ces trucs-là. Et donc, si vous voulez, la messe d'hier, elle était surréaliste. Il y a des gens qui sont venus à cheval, parce qu'en fait, il y a un élevage de chevaux à côté de chez moi, et ils font baigner les chevaux le jour de l'hispanité et tout, mais ça régale. Mais en fait, c'est quoi les métiers des gonzes, tu sais? Oui, je suis éleveur de taureaux, oui, je suis éleveur de cheval. Excusez-moi, est-ce qu'il y a un gonze qui aiguise des épées, en fait? Est-ce que c'est ça, les métiers, là? Parce que tout le monde est curé, guardia civil, enfant espagnol avec une raie sur le côté qui lit des passages des évangiles. Qui a un métier de PD, en fait? Je comprends pas. Là, j'ai vraiment envie d'appeler SOS homosexualité, là, tu vois, SOS homophobie, pour leur dire, attendez, ça va pas, là, vite, penchez-vous sur cette messe, rien n'est PD, en fait. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde a un métier qui concerne des trucs qui se passaient en l'an 1000, en fait. Personne n'est designer d'intérieur ou contrôleur SNCF, en fait. C'est que des mecs qui ont des boulots. Le seul qui avait un boulot de fils de pute, c'était moi, en fait. Mais j'ai le droit parce que j'étais déménageur avant. J'ai quand même bien sué. Donc j'ai le droit. J'ai le droit d'être auteur-dessinateur. Mais remarquez, mon équivalent médiéval, c'est l'enlumineur. C'est l'enlumineur. Donc ça va, c'est stylé, quoi. Voilà. Je suis un enlumineur. Je fais des enluminures qui s'appellent des BD. Donc, ou troubadour, en fait. Hein. Parce que l'oralité... L'oralité, c'est le troubadour, le trou vert et le troubadour, qui vient raconter la chanson de Roland et qui vient installer dans la société un idéal chevaleresque. C'est exactement ce que je fais aujourd'hui. Donc en fait, non, ça va, c'est pas un métier de fils de pute. Du point de vue médiéval, c'est pas un métier de fils de pute. Par contre, quand tu es... Je suis contrôleur aux impôts. Tac, tac, tac. Qui est là?
Et bonjour, monsieur, je suis contrôleur de... des comptes républicains publics, trésor public.
Putain, quelle horreur. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on vit dans un monde où il y a des mecs qui arrivent avec des petites mallettes en simili-cuir de fils de pute, de fonctionnaire de la République, qui viennent regarder si les comptes... Alors, j'ai vu que vous aviez un élevage de chevaux. Je viens vérifier la comptabilité.
La comptabilité de fils de pute de votre activité qui n'est pas une activité de fils de pute. Mais il faut les attacher au bout d'un canon et les faire exploser, en fait. Il faut leur faire des trucs de coréen. C'est ce qu'il a fait Kim Jong-un avec des mecs. Il les a attachés au bout d'un canon, il a fait tirer. Donc voilà, donc les types ont explosé. Il faut faire ça, en fait. Si tu veux, quand t'as un mec qui fait un métier style éleveur porcin, éleveur de chevaux, éleveur de taureaux de corrida, fabricant d'icônes, tu vois, fabricant, sculpteur de statues, tu vois, ou ferronnier, ferronnier d'art. Mais c'est des métiers d'un style. Ce sont des mecs qui te font des grilles pour que tu les foutes sur tes fenêtres comme au lourd Moyen-Âge, en fait. Mais d'où il y a un enculé du trésor public qui vient avec une mallette leur dire « Est-ce que votre comptabilité est bien à jour, monsieur ?» Alors, figurez-vous que j'ai été alerté par un dénonciateur anonyme qui m'a précisé que vous ne facturiez pas tout de manière complètement claire. Et en fait, ce que je voudrais savoir, c'est quelle est la somme que vous devez au Trésor public. Oui, parce que vous comprenez, il faut que Jean-Michel Baillet puisse continuer à aller aux putes et qu'on puisse payer tous ces fonctionnaires de merde qui occupent des postes qui servent à rien dans la mairie. Alors, il faut qu'on trouve l'argent quelque part, parce que la France déborde de clandos. Et ils ont droit à des soins dentaires, voilà. Alors, si vous voulez, si on veut gaver de pognon Jean-Luc Mélenchon, qui ne travaille pas depuis 100 ans, et qu'en même temps on veut pouvoir réparer les dents de tous les Algériens des Aurès, il faut qu'on trouve l'argent quelque part, monsieur. Alors, c'est pour ça que je viens vous contrôler, voilà. Alors, montrez-moi, là, vous avez un calepin avec quelque chose? Est-ce que je peux pas détruire cette entreprise avec un petit contrôle fiscal, non? Hein? Je peux rentrer? Je peux rentrer. Une tapette à rats. Moi, j'y foutrais une tapette à rats géante, là, devant le trésor public de fils de pute. Au Moyen-Âge, quand tu voulais prélever l'impôt, fallait que t'envoies un gonze avec des types qui avaient des gourdins. Parce qu'en fait, il fallait que l'impôt soit justifié. Tu payais l'impôt. Déjà, l'impôt au Moyen-Âge, au maximum. Vous savez qu'au Moyen-Âge, au maximum, c'était 13%. Et il y a eu de très, très graves révoltes quand les impôts étaient aux 13% de la richesse. 13%. Aujourd'hui, on est pratiquement à 70% d'impôts. Quand vous touchez 1500 euros de votre patron, il a déjà payé 1500 euros à l'État. Donc, ça veut dire que sur les 1500 euros que vous prenez, il y a déjà 1500, donc vous êtes déjà imposable à 50%. Déjà imposable à 50%. D'accord? Au Moyen-Âge, quand on montait à 13%, ce qui a été assez rare au Moyen-Âge, il y a eu des révoltes. D'accord? Il y a des seigneurs qui sont morts, éclatés par les paysans parce qu'ils étaient montés à 13% et que c'était inacceptable. Comprenez le truc? Donc, si vous voulez, quand on vous explique, oui, il nous faut une hausse d'impôts parce que la société va mal, mais attends, je comprends pas. Quand les impôts, ils étaient à 13%, on faisait des cathédrales et des croisades, hein, d'accord? Les impôts, ils sont à 70% maintenant, là. Avec ce que te prend l'État de moitié, ce que tu payes en taxes, hein, ce que tu payes à la fin de l'année sur tes impôts sur le revenu, ce que tu payes en taxes foncières pour avoir l'outrecuidance de vivre en France. Ah monsieur, vous avez une maison en France? Mais enfin, payez 1000 euros par an pour ça, enfin! Mais qu'est-ce qui vous prend, monsieur? Mais c'est la République! Il faut bien que la République fonctionne, monsieur! Alors, vous avez une maison en France? Eh bien, nous allons vous demander 1000 euros par an! 1000 euros par an! Pour qui? Pour les maires! Et pour les fonctionnaires! Et pour pouvoir opérer tous les hurluberlus qui veulent changer de sexe, monsieur! Car c'est ça, la grandeur de la République! Prendre tous les malades mentaux, les clodos, les réunir dans un gigantesque zoo à ciel ouvert et leur réparer les dents et la chatte! Et la chatte! Leur fabriquer des bites avec leur chatte! Voilà, monsieur, pourquoi nous prélevons l'impôt. Et puis comprenez, nous avons tout un tas de fonctionnaires boomers obèses de plus de 50 ans à qui il faut payer un nouveau local pour la mairie, monsieur. Où a-t-on trouvé l'argent? Nous n'allons quand même pas aller le prendre à nos arabes turbulents, nous n'aurons pas les couilles de le faire. Nous n'allons pas le prendre à nos riches qui sont partis planquer leur pognon aux Bahamas. Alors l'argent, à qui on va le prendre, monsieur? On va le prendre à toi, espèce de goy de merde! De la classe moyenne de merde! Allez, travaille! Travaille! Travaille pour la République! La République a soif de dépenses! Allez, oh! Au boulot! 67 ans!
On va la passer à 77 ans, la retraite. Tu vas travailler jusqu'à ta mort. Pour qu'on puisse soigner les Arabes. Ah. Alors donc, si vous voulez, le mec débarque. Le mec débarque dans la... Il débarque dans la messe, là, où il y a les curés anticommunistes, les gardiens civils. Et là, imaginez si on était tous dans les églises, si on était tous en train de remplir les églises et qu'on était jeunes, qu'il n'y avait pas que des vieux à la messe. Imaginez le sentiment de puissance. Il va faire quoi, Emmanuel Macron, si tous les mecs entre 17 et 35 ans, ils sont à la messe le dimanche? Et qu'on a une église qui redevient ce qu'elle était, c'est-à-dire l'église de la tradition, qui leur dit « La République, elle commence à nous casser les couilles et elle vit sur nos salaires. Est-ce qu'on n'irait pas un peu la bouger, con ? Est-ce qu'on n'irait pas un peu la secouer, cette République de merde ?» Imaginez ce qui se passe, là. Ils sont terrifiés par ça. Ils ont une peur bleue que vous reveniez massivement à l'église, que vous vous rappeliez que vous n'êtes pas seul et que vous appartenez à un groupe qui s'appelle les mecs de mon village, les mecs de ma région, les mecs de mon pays, d'accord ? Ils sont terrifiés par ça. Ils sont terrifiés par le fait que vous vous rappeliez que vos ancêtres, ils étaient à genoux, ils priaient en latin. Ça a pris Jérusalem à 1 contre 16. Ils n'ont pas envie de vous en parler de cette période. Pourquoi ils le feraient? Ils veulent vous imposer à 80%. Ils vont pas vous expliquer que quand vous vous tenez à genoux et que vous priez en latin Jésus-Christ, ça finit avec des coups d'épée sur la gueule des impies. Parce que c'est eux les impies. Ils habitent plus en Terre Sainte les impies. Ils habitent à l'Élysée, ils habitent au Sénat, ils habitent à la préfecture, ils habitent dans les loges. Ils sont là les impies. Donc ils vont pas vous dire... Putain, tu te rappelles ton ancêtre, là, quand il était à cheval, là, les gros chevauchés, là, pour aller chercher les enculés. Allez, décapitez-moi ça! Ils vont pas t'en parler de ça. Ils vont pas te faire des films là-dessus. Mais pourquoi il n'y a jamais de film sur l'histoire de France? Mais parce qu'en fait, je t'explique. L'histoire de France, ce n'est qu'un long éclatage des impies, en fait. Voilà. Voilà. C'est pour ça que tu peux pas avoir de film sur l'histoire de France. T'es les mecs se demandent. Mais attendez, on nous parle jamais des croisades. On nous parle jamais de la France d'avant. Oui, parce que la France d'avant, en fait, quand t'as un mec qui voulait t'imposer à plus de 13%, c'était tête et pique, en fait. Donc c'est normal que le CNC va pas financer des films qui expliquent que le CNC devrait finir au bout d'une pique. Vous le comprenez, ça, quand même. Et c'est toutes les limites du patriotisme. Il y a des mecs qui se disent patriotes, mais non, mais attends, ne critique pas la République, c'est notre patrie. Tu affaiblis la France si tu parles... Mais attendez, tu affaiblis la France si tu parles de la République? Mais vous savez ce qu'elle nous a fait, la République? Vous vous rendez compte de ce qu'elle nous a fait? Vous savez que la Première Guerre mondiale est une guerre qui n'aurait pas existé sous l'Ancien Régime avant. Sous l'Ancien Régime, c'était des armées de métier. On n'envoyait pas des laboureurs, des artisans mourir pour les bourgeois, en fait. Ça n'existait pas. Et surtout, les nobles allaient faire la guerre. Dans l'Ancien Régime, les nobles allaient faire la guerre. Donc, non seulement on ne t'envoyait pas faire la guerre, mais en plus, c'était, entre guillemets, ton supérieur qui allait la faire pour toi. On n'inversait pas les rôles. C'est pas aux paysans d'aller protéger les économies du bourgeois. C'est aux bourgeois d'aller défendre l'appareil de production qui fait vivre tous ces paysans. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, la République, dire il faut pas s'en prendre à la République parce que c'est antipatriotique, mais c'est de la merde, c'est un raisonnement de merde. Vous avez pas retenu la leçon de la Première Guerre mondiale? Non mais attendez, la Première Guerre mondiale, c'est le festin de la franc-maçonnerie. C'est le festin républicain. C'est l'ensevelissement, c'est le suicide des nations via le sacrifice de ce qu'elles avaient de plus ancré, de plus patriote et de plus dur à mater. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui s'est passé après la Première Guerre mondiale n'a pu se passer que parce qu'on avait éliminé ce que les pays avaient de plus solide. Mais la recette, on la connaît par cœur. Ils ont essayé de vous la ressortir pour la guerre en Ukraine. Moi, j'ai commencé à voir des mecs de droite qui disaient « Ouais, les Russes, ils ont dit que... Ils s'en prennent à notre gouvernement. » Mais attends, les Russes, ils ont dit que notre gouvernement, il était décadent, ce qui est une réalité, que notre pays était devenu décadent, c'est une réalité. Il n'a pas dit qu'il fallait exterminer les Français, en fait. Donc, tu vas aller faire une guerre pour qui? Tu vas aller faire une guerre pour qui? Parce que qui va aller faire la guerre en Russie? C'est les mecs de droite, c'est les patriotes qui vont se la donner, qui vont sortir en premier, comme sous 14-18. Ils ont été très très bons pendant 14-18. Ils sont allés prendre ce que la France avait de plus solide, de plus pur, et ils ont fait un amalgame entre République et France en disant « Vous allez défendre la France, allez défendre la République. » Et là, t'en as eu de la Marseillaise et compagnie, là. « Allons, enfants de la patrie, c'est l'heure d'aller tuer !» Et des Allemands, les Allemands, c'est les méchants, et il faut aller les tuer, parce que nous, on est les gentils. Une fois que t'auras buté les Allemands, tu pourras être imposable à 70%, faire partie de l'Europe, te faire enculer par la mairie. Et que, au sacrifice, les gogoles, allez, il faut crever pour pouvoir élire Van der Leyen à la place du roi de France. Vive la France! Vive la France! Vive la République, c'est la même chose. Alors toi, qu'est-ce que tu es? Tu es un paysan occitan? Va crever! Va crever au front, là! Allez, sors de ta trachée, là! Allez! Baïonnette au canon, allez hop, c'est parti, le suicide européen. Ah, les Allemands, c'est les méchants. Oh, les Allemands, ils sont méchants. Oh, oulala, oulala. Ah, ça, c'est tes ennemis, les Allemands. Oulala. Et puis pas que. Putain, le foutage de gueule. Les Austro-Hongrois, c'est des salopards aussi, il faut aller les tuer. Ah non, attends. Non, nous, on a tué le roi, mais c'est pas pareil, c'était pour le bien de la France. Non, tes ennemis, ils sont en face. Tes ennemis, c'est le mec qui te ressemble, qui est dans la tranchée d'en face. Enfin, tu vois bien qu'il sait pas dire bonjour. Il dit Guten Tag. Mais si ça, c'est pas un motif pour le tuer. Allez, c'est parti, allez, hop. Tut. Ah putain, quelle tristesse. 9 millions de morts. 9 millions de morts. Je sais plus combien de millions de morts français. Pour défendre quoi? Pour défendre la République. Mais vous savez, je suis pas en train de moquer des poilus. Hein. C'était des gens qui étaient pris dans un truc qui était plus grand qu'eux. Comment vous vouliez qu'ils sachent? Comment vous vouliez qu'ils sachent, eux? On leur présentait un truc, ça les dépassait complètement. Et ils sont allés au sacrifice, très bravement. Très bravement. Mais vous rendez compte, le gâchis? Est-ce qu'ils auraient pas été plus utiles, ces mecs-là, à nous dire que l'hydroxychloroquine, en fait, ça fonctionne, et que Van der Leyen, elle peut aller un peu se faire enculer, en fait? Est-ce qu'ils auraient pas été utiles vivants, ces Européens? Je vous pose la question. Parce qu'une fois qu'on a tué ce beau monde pour défendre les valeurs de la République contre les Allemands, eh ben après, il y a des veuves. Enfin, il faut trouver des bites pour les sauter! Allez, faites venir tout le monde, là, voilà. Allez, hop. Oh, elle ne baisse pas assez avec des étrangers. On leur remet une guerre mondiale, et cette fois-ci, on va apporter ce qu'il y a de pire. Non, je veux que les Françaises baissent avec tout et n'importe quoi. Comme ça, à la fin, on fera ce qu'on veut. Oh, mais le plan, il est parfait, vous avez vu? Le méchant de la République, c'est un méchant de Nicky Larson. Alors! C'est un méchant de Nicky Larson, putain. Alors, monsieur l'Allemand. Je vais installer le pouvoir de la franc-maçonnerie, alors je vais faire une guerre mondiale. Où tous les Français vont mourir en membres en pensant défendre la patrie alors qu'ils défendent la République. Voilà, c'est ça en fait. C'est ça en fait. Et là, on vous met de la Marseillaise, on vous met du drapeau et allons-y pour le nationalisme. Allez, c'est parti. Voilà. Et résultat, qu'est-ce qu'on a tué? On a tué des mecs qui étaient des lignées qui dataient de quoi? De l'Antiquité. On a des milliers de lignées de Français qui se sont arrêtés à Verdun. Pour défendre quoi? La République. Cette guerre, elle avait été déclarée par qui? La République. Parfait, ça. Non, parce que avoir des guerres avec les Allemands, comme on a toujours eu, où c'est une armée de métier qui va se taper avec une armée de métier d'Allemands, c'est pas grave, c'est comme ça. Les Français ont eu des guerres avec tous leurs voisins. Il n'y a pas un voisin qu'on a à côté de nous avec qui on n'a pas eu une guerre. Même les Suisses qui sont neutres, on a eu une guerre avec eux. Donc, si vous voulez, on a eu même plusieurs guerres avec eux. Donc, si vous voulez, les guerres, ça arrive. Mais il n'y a qu'avec la République qu'on a envoyé des milliers de pères de famille à l'abattoir. Ou des mecs qui allaient devenir des pères de famille. Voilà. Et à la fin, il reste qui? Il reste les gonzesses qui pourront bien se faire bourrer par des étrangers. Il reste des types traumatisés et il reste les lâches, il reste les planqués. Vous savez quels sont les deux départements qui ont donné le moins de poilus? C'est la région parisienne et Marseille. Voilà. Vous savez quels sont les départements qui ont donné le plus de poilus? La Lozère, la Vendée, la Bretagne, l'Ardèche. Et des endroits qui étaient extrêmement catholiques. Oh mais c'est un coup de maître! Oh mais c'est un coup de maître! Allons-en, oh, en deux, oh là là, oh, j'ai les larmes aux yeux, là, attendez, oh, oh, nous allons prendre la colline 325 et nous allons sacrifier 1 500 000 Français pour le faire. Oh, parce que la République le vaut bien, enfin, enfin, la République, les valeurs de la République le valent bien. Si nous voulons humilier les Français pour les Jeux Olympiques de 2024, il faut qu'on démarre maintenant, il faut qu'on installe les bases maintenant, vous vous rendez compte? Nous sommes en 1914, les Jeux Olympiques, c'est dans 110 ans. Il faut se dépêcher, là. Il faut se dépêcher. Non, mais attendez. Là, si on leur amène un transsexuel pour parodier Jésus, les Français vont se révolter. Non, non, attendez. D'abord, vous m'en crevez la moitié. Voilà, vous m'en crevez la moitié. Vous nous laissez que des lâches. Et puis là, on pourra faire ce qu'on veut. Voilà, c'est ça, en fait. C'est ça, en fait. Ah, une cérémonie des JO comme celle qu'on a vécue, elle se prépare. Hein. On est d'accord, là, vous qui m'écoutez. On est d'accord que la cérémonie des JO actuellement, elle n'était pas possible en 1200. Regardez, on va faire un jeu ensemble. On va jouer à « Était-ce possible d'être homosexuel ?» et je vous donne une date. D'accord ? Pas d'être homosexuel, pardon. « Était-ce possible de faire... de blasphémer ?» et, « Était-ce possible de blasphémer Dieu et donc du coup la France la cérémonie des JO ?» Allez, je vous donne des dates. En 1100. Alors attendez, regardez ce qu'on va faire. On va regarder en 1100. Donc Thomas Joly, il veut faire voilà Thomas Joly, le mec qui a blasphémé contre Jésus-Christ et qui a humilié les Français. Donc il veut faire ça. Je vais taper année 1000. Allez, je dis un chiffre au hasard, 1105. Allez, hop, 1105. Voilà. Année 1105. Alors attendez, je mets Wikipédia. Hein, 1105. Je regarde. Ah, alors, 7 avril, Henri Ier d'Angleterre, appelé par des Normands révoltés contre son frère Robert Courteuse, débarque à Barfleur pendant la Semaine Sainte et lance une expédition sur le Bessin. Il met le siège devant Bayeux qui incendie le 5 mai. Ah, oh, putain. Ah, oh, putain. Et là, on prend Thomas Joly et on le fout le 7 avril 1100. 1105. 7 avril 1105. Donc Thomas Joly, il arrive là, avec ses transsexuels là. Henri Ier d'Angleterre, appelé par des Normands révoltés contre son frère Robert Courteuse, débarque à Barfleur pendant la Semaine Sainte et lance une expédition sur le Bessin. Il met le siège devant Bayeux qui a incendié le 5 mai. T'as des Golgothes normands et des Anglais du Moyen-Âge avec encore moins de dents qui sont en train de se foutre sur la gueule et tu mets l'autre tarlouse là au milieu. Et regardez ce que j'ai fait avec Jésus-Christ. Putain, au milieu de la ville en flammes. Il se serait fait pousser dans le feu, con. Ah, ils sont où les quarts de CRS pour te protéger, putain? Ah, ah, ils sont où, là, tous les collabos à ce système de merde, là, pour te protéger, quand, putain? Thomas Joly en 1105, t'es... Ah, les expéditions, t'es avec des torches. Mais tu vas faire quoi, fils de pute? Mais qu'est-ce que c'est que cette hérétique? Déjà, le mec, il a mis bizarre. Poussez-le dans les flammes, on n'a pas le temps. Oui, parce que ce qui serait stylé, c'est qu'il fasse un bûcher spécial pour lui. Mais les mecs, ils ont pas le temps. Ils sont en train de faire des expéditions là contre les Anglais. C'est des Normands là avec des gros coups. C'est blablabla. Ils le poussent dans le feu, le mec brûle. Putain. Oh putain. Alors attendez, je mets une autre date. Année. Je sais pas moi, 1318. 1318. Voyons. Ah, alors, voyons. Putain, excusez-moi. Alors, France. Oh, putain. putain, je trouve rien sur la France. "23 janvier, France. Le Grand Conseil prononce l'affranchissement des serfs du domaine royal." Putain, j'avais pas vu, c'est le premier truc. Thomas Joly, il arrive en 1318, c'est... Tu es libre, mais pourquoi? Mais parce que t'es une merde, parce que t'es un cerf, voilà, ben on a décidé de te faire libre, on a décidé d'améliorer ta condition. Oh putain, oh, qu'est-ce que c'est génial quand... Allez, 1000, on va être quoi, 1400, non, on va mettre 1476. Allez, année. Putain. Excusez-moi les amis, j'ai trop rigolé. Merde, attendez, je tape mal. Année 1496. Excusez-moi, je vous prie de m'excuser. Hein. Alors, voyons. Ouais, Christophe Colomb. Putain, 10 mars 1496, Christophe Colomb laisse le gouvernement d'Hispaniola à son frère Bartolomeo et rentre en Espagne avec Juan de Aguado. Mais il se passe que des trucs épiques, en fait. Qu'est-ce que vous voulez que ce fils de pute se retrouve sur un bateau en Amérique, en fait? Les perroquets, les oiseaux rares, à l'époque, c'est sur les branches, en fait. Et t'as les Taïnos qui leur mettent des coups de flèche. Allez, 1708. Allez, hop, 1708. 1708, France. Ah, voyons. 23 mars. Échec d'une tentative de débarquement jacobite en Écosse. La flotte française, partie de Dunkerque le 17 mars, ne peut faire débarquer dans le Firth of Forth en Écosse. Le prétendant au trône, Jacques III, mais putain, il se passe que des trucs stylés. Il y a des rois, ils débarquent en barque avec des mecs surarmés. Mais fils de pute, il y a quelle place, là, pour la garde républicaine et Ayana Kamoa, là? Ils font quoi, tu sais, à part des pipes et le café, quoi? Enfin, ça, sans déconner. Comme dirait l'autre. Sans déconner, quoi. Franchement, sans déconner. Mais vous vous en rendez compte que les trucs de dingue, ça n'est que depuis 1968, en fait. C'est, on est d'accord que là, si on joue à est-ce que c'était possible que ce soit PD et que je vous trouve n'importe quelle date, si on l'avait fait en live, n'importe quelle date, il se passe un truc épique. Il se passe un truc où, en fait, il se fait pourfendre Thomas Joly, là, d'avoir fait une telle humiliation à la France. Vous comprenez le truc? Et en fait, j'en ai plein le cul de devoir expliquer au mec de droite en quoi il est complètement infamant de défendre la République et de ne pas être totalement royaliste et totalement rattaché à la tradition catholique, en fait. C'est pas grave si vous n'êtes pas encore catholique, mais intéressez-vous-y et rattachez-vous à cet héritage pour le moment. Puis le spirituel viendra plus tard. Mais c'est quand même super important, putain. Vous voyez bien que c'est un barrage. Je vous l'ai démontré par A plus B, quoi. Et ici, j'en ai encore l'exemple vivant. J'en ai encore l'exemple vivant, puis il se passe des trucs géniaux. T'es à la messe, il y a des chants, là, il y avait des chants et tout. Il y avait des chants en latin, mais c'était surstylé, si tu veux. Qu'est-ce qui se passe dans ton cerveau quand ton métier, c'est ferronnier et qu'il y a du Guillaume de Machaut, tu sais? En cette terre où je vis voiliment, gna 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 gna, dila dila. Les mecs, ils écoutaient ça pendant la guerre de Cent Ans, quand. Les mecs, ils écoutaient ça. Est-ce qu'après, tu la pourfends, la viande, t'sais? Ils vont te dire quoi, là, les... Oui, je suis le préfet de... Je sais pas, mais ferme ta gueule, hein. Sous-fifre franc-maçonnique, hein. Espèce de rat de messe noire. Ferme ta mère, va. Ferme ta mère. Ils vont dire quoi, ces mecs-là? T'sais, quand il y avait ça, là, quand les mecs se dopaient au chant grégorien, il y avait quelle place pour Christian Hergal, t'sais? Il y avait quelle place pour Pierre Plotu? Il y avait quelle place pour Libération, en fait? Il se passait quoi, t'sais? Putain, et les mecs, oui, mais tu fais une fixation sur le christianisme, mais ferme ta gueule. Ferme ta gueule, la France, elle a arrêté d'être lourde quand? C'est quand qu'on a commencé à avoir des putains de catastrophes en permanence? Quand on a arrêté d'avoir du Guillaume de Machaut dans les oreilles et qu'on s'est mis à avoir du Scissor Sister, là. Putain, Scissor Sister, attends, je vais le taper sur YouTube. C'est un truc que j'écoutais, là, à Paris, putain, ça passait partout. J'avais qu'une chaîne à l'époque parce que j'avais pas d'antenne, donc je captais qu'une chaîne, et c'était M6, et à partir d'une certaine heure du soir, je l'entendais tout le temps. Je l'entendais partout. J'étais forcé d'écouter cette merde en permanence. Comment ça s'appelle, putain? Scissor Sister. Voilà. Attendez. Voilà, écoutez ça, écoutez ça. Alors, il va y avoir de la pub de merde, je pense. Voilà, de la pub de merde. Écoutez-moi cette merde, en fait. Écoutez à quel point... Bon, là, il y a de la pub pour M&M's. Vas-y, mais putain, je supporte plus cette époque de fils de pute. Écoutez cette chanson du démon. Écoutez. Ah, il y a une petite intro, là. Brûlez-moi ça! Brûlez-moi ça! Qu'est-ce que c'est que ça? Et évidemment que les cerveaux, ils sont cassés maintenant, entre les écrans et ces trucs-là, là. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça, en fait? Si t'es pas dans le refus de ça, tu ne t'en sortiras jamais personnellement. Et si tu ne t'en sors jamais personnellement, le pays, avec la multiplication des individualités, ne s'en sortira jamais personnellement, putain. Mais écoutez-moi ça! On est où? Y'a pas un inquisiteur là? Y'a pas une instance religieuse qui peut traiter ce cas là sans déconner quoi? On est où? Écoutez-moi ça! Putain mais... Putain... Coupez-moi la moitié de cette forêt, on va faire un bûcher géant! Voilà, c'est ça en fait. Il faudrait qu'il y ait un seigneur avec des gros colliers là, et puis des gants, et un faucon sur le gant là. Le mec, il arrive à cheval. En fait, il est dans la forêt de Blois, le mec. Voilà, je vais juste expliquer. Le mec, il est dans la forêt de Blois là, en train de chevaucher son cheval. Et tout d'un coup, il arrive là, et il entend ça. Diantre! Qu'est-ce donc? Putain! Coupez-moi la moitié de cette forêt! Et faites des bûches! Je veux voir des flammes jusqu'à Paris! Tu sais, le mec, il habite à 150 bornes de Paris. Faut que les flammes, on les voit depuis la Tour Eiffel. Même si elle n'a pas encore été construite, bande de fils de pute. Voilà! Voilà! Eh, mais ça change quoi d'aller à l'église? Mais ça change que que t'écoutes autre chose que ça! Oh! Sans déconner, putain! T'arrêtes de sautiller, con! Oh! Instagram! C'est dégueulasse, mais attendez. Hop, alors, hop, Guillaume de Machaud. Allez, on va se nettoyer les oreilles, hein. Vous m'avez cassé les couilles, là. Guillaume de Machaud, allez, c'est parti. Ta gueule, il va y avoir de la pub en espagnol. Voilà. Parce que vous compreniez à quel point c'est important d'avoir un moment dans la semaine où tu écoutes des trucs calmes, où tu écoutes des trucs normaux, tu vois, pour ton cerveau, pour les lésions qu'ont fait les chansons de Gaïzou là dans tes oreilles. Écoutez ça. Mais tout est hétérosexuel là. Vous l'entendez? Il y a quatre notes, tout va bien, là. Il va y avoir des trucs normaux. Il va y avoir des trucs normaux, là. Non, mais... Je sais pas comment vous transmettre le fait que, là, les 4-5 premières notes, ça va. Il n'y a rien de sexuel. Il n'y a pas quelqu'un de différent qui tressaute là-dessus. Voilà. Écoutez, là, écoutez comme ça part bien. Là, on sent qu'on peut faire des trucs. Voilà, écoutez. Là, tout le monde est concentré. C'est les chansons où tout le monde est concentré. Et quand tout le monde est concentré, il n'y a pas des trucs chelous. Il n'y a pas Aya Nakamura qui nous humilie avec la garde républicaine en dansant je sais pas quoi. Vous comprenez ce que je veux dire? Tout le monde est concentré là. Tout le monde est à genoux dans l'église. Ah, écoutez. Imagine la tête des mecs. Imaginez l'ambiance. D'accord? L'ambiance des mecs qui écoutent ça. Écoutez. Putain, mais le solo est incroyable! Vous allez le comprendre, ça, fils de pute, qu'il faut arrêter de prendre votre cerveau pour une poubelle? Non, mais moi, Dieu, ça m'intéresse pas! Non, mais moi, j'aime bien écouter de la house. Fils de pute. Reste concentré, la France a besoin de toi. Imaginez quand, sur 70 millions de Français, t'en as la moitié, le dimanche après la messe, ils écoutent ça. C'est génial, putain. Tu sens qu'elle est pure, t'as envie de la protéger, la dame qui chante. Tu sens qu'elle est pure, écoutez, écoutez cette voix, écoutez.
Ce créature, non, 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 non.
Tu vois, ça, t'as envie de le préserver. C'est pas une salope qui chante, là. C'est pas une salope, tu vois. Elle a pas de string, tu vois. Tu comprends? C'est des trucs qui te ramènent à une époque où il n'y avait pas de string. Elle fait pas des culs de poule quand elle prend un selfie, en fait. Voilà. Donc, si vous voulez, si on veut revenir à cette pureté, si on veut revenir à ce niveau de il va falloir qu'on se réforme tous, qu'on se réforme en profondeur. Voilà. Qu'on considère certaines choses qu'on ne considérait plus, tu vois. Arrêtez d'écouter. Fils de pute. Fils de pute. Et oui, parce que, en fait, quand tu fais crever, je sais pas combien de millions de poilus, qu'est-ce qui reste? Il reste Je vivre roi liman de Guillaume de Machaut, ou il reste. Qui c'est qui va à la guerre, en fait? Les gens qui font. Ou les autres? Ceux qui ont des crécelles là, et des viols, tu sais. Oui, 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 oui. Ceux-là, ils y vont, la guerre. Voilà. Parce que ceux-là, ils ont un attachement au drapeau. Et les autres, tu sais. Les autres, je vous la remets, l'autre, hein. Vous voulez comprendre où on en est? Est-ce que je vous la remets, l'autre? Est-ce que je vous punis avec l'autre, en fait? Hein? Allez, c'est parti. Just take... Bon, enfin bref, voilà, vous avez compris l'idée. C'est insupportable, j'ai envie de mettre un coup de tonne à l'ordinateur. Vous allez à l'église, hein, vous vous renseignez sur l'histoire de France, vous arrêtez de faire des trucs de PD, vous vous reconcentrez, vous allez écouter Guillaume de Machaut sur YouTube, hein, et ça va le faire. Ok? Allez, bisous, fin du podcast. Merci d'avoir écouté. Vive la France, et surtout pas, vive la République. Amen.